9.
Nicolas Raffal. Radio J.
Il est 6h, bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 28 avril en compagnie pour ce morning, cette matinale d'Eva Soto. Bonjour Eva, vous avez l'air en pleine forme.
Mais je suis en pleine forme.
Et en compagnie de Benjamin Arnault, bonjour Benjamin Arnault, vous n'avez pas du tout l'air en pleine forme.
Oh. Mais je suis en pleine forme.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, il est donc 6h, on va passer ensemble l'entièreté de cette matinale de ce morning jusqu'à 8h45 pour décortiquer l'actualité Israël, France, bien évidemment, avec l'ensemble de nos chroniqueurs et de nos experts. À 6h07, on fera un focus. Il s'est passé des choses encore cette semaine, des choses édifiantes parfois, du côté de Sciences Po. On va en parler à 6h07, Eva, avec un reportage de Monsieur Lot, voilà.
Avec une interview de Maxime Lot, qui est responsable du printemps républicain à Sciences Po.
Dans quelques minutes, et puis on parlera également, pourquoi pas aujourd'hui, d'Oscar Schindler, voilà, qui était né un 28 avril. On parlera de la pendaison de Mussolini aussi, un 28 avril 1945, deux jours avant le suicide d'Adolf Hitler. Voilà en gros le programme, et puis il y aura bien sûr toute l'actualité à venir. C'est tout de suite, c'est maintenant avec le journal de 6h. De l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste publie une nouvelle vidéo d'otage.
Un film où apparaissent Kit Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Dans cette vidéo scénarisée par le Hamas, les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza. 95 seraient encore vivants selon la 12e chaîne israélienne. Une réponse sur un accord à propos de la libération des captifs pour intervenir dans les 48 heures, mais un responsable israélien a affirmé qu'Israël avait refusé le retrait militaire de Gaza et les autres exigences présentées par le Hamas.
En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections.
Manifestation hier soir à Césarée, près du domicile du Premier ministre israélien. Les protestataires ont repris en chœur leur slogan à propos des otages. Que font-ils là-bas? Ils les abandonnent à Gaza. Appel similaire à Tel Aviv, avec là des milliers de personnes, et aussi dans le nord, à Pardes Hana Karkour, près de Hadera. Plusieurs dizaines de manifestants se sont retrouvés sur l'autoroute 4 en brandissant des pancartes pour appeler à des élections anticipées. Se sont également rassemblés sous les mêmes mots d'ordre hier soir à Tel Aviv.
Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël.
Et le ministre français des Affaires étrangères sera au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné va présenter des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah, qui est soutenu par l'Iran. La proposition de Paris a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais elle ne progresse pas. Il faut dire que le Hezbollah ne veut pas discuter tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza. Israël souhaite pouvoir garantir le retour chez eux des 80 000 Israéliens déplacés du nord du pays à cause des attaques quotidiennes du groupe terroriste mandataire de l'Iran.
Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie, la Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition.
La coalition d'associations responsables de la flottille, ils voient le résultat de pression. La Guinée-Bissau est complice de la famine délibérée imposée par Israël, du siège illégal et du génocide des Palestiniens à Gaza, selon les termes employés. En 2010, une précédente flottille de ce pays avec des islamistes à bord sur l'un des navires, le Navi Marmara, avait été au centre de la détérioration des relations entre la Turquie et Israël.
Acheminer davantage d'aide à Gaza, justement, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire.
Un projet porté par Jérusalem et Washington, Tzahal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. Le but, c'est de permettre à plus de navires d'amarrer pour acheminer davantage d'aide par voie maritime. Une brigade de réservistes est déployée sur place pour sécuriser le site.
En France, après la fin du blocage de Sciences Po, le Premier ministre affiche sa fermeté.
Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal, pour qui cette minorité cherche à imposer ses règles. On écoute le Premier ministre.
Nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et sur le respect des valeurs de la République. Et la vigilance sera totale dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour que le respect de la loi, des valeurs de la République soit au cœur de la mission de l'administrateur provisoire qui a été nommé, mais aussi évidemment de la future direction qui sera nommée à l'issue du processus de sélection.
Des étudiants soutenus sur place par la France Insoumise qui ont organisé ces blocus pour réclamer la fin des partenariats de Sciences Po avec des entreprises et des établissements israéliens. Ce sont les CRS qui les ont délogés. Parmi ces manifestants, il y avait notamment des élus de la France Insoumise, par exemple Thomas Porte, et également Rima Hassan, candidate pour LFI aux élections européenne.
Merci Eva pour ce journal de 6h. Et demain, c'est Yom Tov. La météo, nuages prédominants aujourd'hui sur Paris, mais avec des éclaircies dans le courant de l'après-midi. Et il faisait un petit peu frisquet ce matin, bien sûr. Mais cet après-midi, ça va sérieusement se lever, voilà, avec 17 degrés au compteur parisien. Tel Aviv, il y a des nuages aussi et des éclaircies. Il fera 25 degrés dans le courant de l'après-midi. À Jérusalem, 15 ce matin, 24 avec des nuages dans l'après-midi.
Nicolas Raffal.
6h presque 7 sur Radio J. Une semaine donc, Eva, très difficile à Sciences Po Paris. On y revient ce matin sur Radio J avec vous.
Les étudiants antisionistes ont été délogés de Sciences Po avant-hier par les forces de l'ordre. Le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé ces blocus et affirmé que la vigilance serait de mise dans les prochaines semaines et mois sur le campus. Vendredi, aux côtés des manifestants antisionistes, se trouvaient aussi des députés LFistes, notamment Thomas Porte ou encore Rima Hassan, candidate pour LFI aux européennes. Tout le monde a été évacué par les forces de l'ordre. Retour sur cette semaine de tension avec Maxime Lotte, responsable du printemps républicain à Sciences Po. Maxime Lotte qui nous raconte l'ambiance qui a régné ces derniers jours avant l'évacuation.
La venue de Jean-Luc Mélenchon lundi à Sciences Po pour donner en fait en réalité un meeting, puisqu'il a développé son discours dans le cadre de la campagne des élections européennes. Et ainsi, il a pu fédérer différents groupes d'étudiants, des syndicats, des partis politiques et donc les militants antisionistes. Et donc depuis le début de la semaine, depuis lundi, blocages, chants antisionistes, antisémites ont lieu en permanence à Sciences Po. Les cours sont perturbés et la situation n'est plus tenable. Plusieurs étudiants qui ne sont pas engagés en politique et qui ne sont pas concernés, qui ne veulent pas importer le conflit Hamas-Israël dans le campus éprouvent un sentiment d'oppression et trouvent la situation invivable, intenable et appréhendent d'aller en cours. On m'a parlé de boules en ventre, de personnes qui ne veulent plus aller en cours, qui veulent que les cours passent en distanciel parce qu'ils ont tout simplement une appréhension en entrant à Sciences Po où vous avez une centaine d'étudiants qui est masquée en permanence avec des foulards, avec des drapeaux palestiniens partout. C'est une véritable propagande.
Comment elle s'organise cette propagande ? Est-ce que c'est des étudiants à Sciences Po, certains groupes à Sciences Po ? Est-ce qu'il y a des gens aussi qui viennent de l'extérieur ?
Oui, effectivement, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et notamment certains étudiants internationaux américains qui pénètrent donc le campus à l'aide de doubles diplômes. Donc je pense notamment à l'école Columbia qui a un double diplôme avec Sciences Po. Et ces étudiants-là diffusent...
Normalement, ça, ces étudiants, ils sont aussi étudiants à Sciences Po.
Ils sont étudiants à Sciences Po aussi. Et donc, ils importent l'idéologie américaine et essayent d'américaniser le campus de Sciences Po avec des discours profondément antisémites. Et donc, ils essayent de diffuser leur propagande en touchant le maximum de personnes. Comment ça se fait ? Bah, par les réseaux sociaux notamment, avec des milliers de likes, c'est vachement repris, les étudiants sont sensibles. On diffuse des images des bombardements à Gaza, avec notamment des fake news qui sont diffusées, mais qui sont crues par les étudiants. Il n'y a plus aucun esprit critique, en fait, dans le camp antisioniste à Sciences Po. Et donc, de plus en plus d'étudiants sont touchés et se greffent à ces militants antisionistes.
Donc, en réalité, ce qui se passe à Sciences Po, d'après vous, il y a une volonté de certains groupes qui viennent des États-Unis, notamment, d'importer ce qui se passe aux États-Unis à Sciences Po, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a une stratégie qui est claire et qui est affirmée notamment sur le réseau X.
Comment ils procèdent ?
Eh bien, ils réussissent à arriver dans les campus français ou en Europe plus généralement et créer... une association qui est SPJ et qui...
C'est quoi SPJ ?
SPJ, c'est une association qui vise à...
À fédérer
les étudiants dans chaque campus. Donc c'est une initiative américaine et qui est arrivée en France. Mais donc c'est des groupes d'individus qui essayent de fédérer au maximum dans les campus français en apportant les mêmes éléments de langage qui se trouvent aux États-Unis. Et donc certes, aujourd'hui en Europe, il y a une différence de degré entre ce qui se passe aux États-Unis dans les universités comme Yale ou Columbia et ce qui se passe à Sciences Po. On n'est pas encore sur la même échelle, sur la même gravité, on va dire. Mais le fond, la nature, le mal est profond et c'est le même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut agir avec fermeté et empêcher ces étudiants d'arriver au bout et à leur fin. Puisqu'aujourd'hui, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait un accident grave pour réagir ?
Ce climat, il concerne les étudiants juifs uniquement qui se sentent menacés ou ça concerne également d'autres étudiants ?
Le souci, c'est qu'effectivement, à la base, leur combat consiste à stigmatiser les étudiants sionistes.
Juifs.
Donc juifs, le souci c'est que les individus, en tout cas les étudiants qui essayent de soutenir nos camarades juifs qui sont victimes de discrimination, il faut le dire, sont donc stigmatisés en tant que militants sionistes. Alors qu'on ne prend pas forcément part dans le conflit israélo-palestinien, mais du fait de notre soutien à nos camarades juifs et à nos camarades sionistes, en les soutenant dans les discriminations qu'ils vivent chaque jour, nous devenons complices donc du régime israélien. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est parce qu'on est juif ou soutient des discriminations que vivent les juifs que nous sommes complices du gouvernement israélien.
Que fait la direction ?
Rien.
C'est-à-dire ?
Ils nous envoient des courriers pour nous dire qu'ils condamnent fermement les agissements, mais refusent de sanctionner les étudiants. Il y a deux nuits... Les manifestants pro-palestiniens ont donc occupé toute la nuit, ont tenté d'occuper toute la nuit les locaux de Sciences Po. Ils ont été délogés par les CRS qui avaient été envoyés par la direction. Mais ce délogement avait été effectué à trois conditions. Les CRS avaient pour mission de ne pas violenter les étudiants, soit, mais ils avaient ensuite pour mission de ne pas interpeller les étudiants et de ne pas mettre de contravention. Donc c'était une logique vraiment zéro sanction pour protéger la sécurité juridique des étudiants pro-palestiniens et des militants anti-sionistes.
Quand vous allez en cours actuellement, qu'est-ce que vous redoutez le plus ?
Les insultes, la diffamation, beaucoup de diffamation. Les regards, hier on m'a jeté un bout de papier à la figure avec des auteurs antisionistes et antisémites et on m'a dit tiens tu vas te cultiver un petit peu. C'est des choses, c'est de la pression, pas forcément de la violence physique, mais de la violence symbolique, énormément. Des regards dans les cours. J'ai cours avec des individus qui, par exemple sur Twitter, n'hésitent pas à me traiter de toutou de l'état terroriste israélien. Et j'ai cours ensuite avec ces gens-là. Et donc je n'imagine même pas la pression de ceux qui sont identifiés comme juifs et qui subissent cette discrimination de plein fouet.
Maxime Lotte, responsable du Printemps républicain à Sciences Po. Et au terme du blocus, la direction de Sciences Po Paris a publié un communiqué. Elle s'est engagée à organiser un town hall, assemblée populaire avec la direction et ouvert à toutes les communautés de Sciences Po pour discuter des revendications des antisionistes, notamment le fait de rompre les partenariats avec les universités et organisations israéliennes. Les sanctions disciplinaires contre les étudiants qui ont pris part à ces blocus sont quant à elles suspendues. Affaire à suivre en France, et on a par ailleurs appris dans la nuit que la police avait arrêté des manifestants anti-israéliens aux États-Unis à l'université d'Indiana et à l'université d'État de l'Arizona. Le département de police de l'université d'Indiana à Bloomington a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que 23 manifestants anti-sionistes y avaient été arrêtés. La police de l'État de l'Indiana ainsi que la police de l'université ont déclaré aux manifestants qu'ils ne pouvaient pas planter de tentes ni camper sur le campus. Les tentes n'ayant pas été retirées, la police a arrêté et transporté les manifestants au centre judiciaire du comté de Monroe, accusés d'intrusion criminelle et de résistance à l'arrestation. Les services de police ont notifié ce qu'il s'est passé à la direction de l'établissement. Les manifestations antisionistes se sont étendues à plusieurs campus universitaires aux États-Unis ces dernières semaines, attisées par l'arrestation massive de plus de 100 personnes sur le campus de l'Université de Columbia la semaine dernière. Les chefs d'établissement de plusieurs universités ont réagi la semaine dernière en demandant à la police de vider les campements et d'arrêter ceux qui refusent de partir.
Radio-J, le 6-9, Nicolas Raffal.
Il est 6h15, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio-J. Le rappel des titres avec vous Eva, bonjour Eva.
Bonjour, à la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui publie une nouvelle vidéo d'otage, un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Dans ce film scénarisé par le Hamas, les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections à Césarée, à Tel Aviv ou encore à Pardes-Hanakarkour près de Hadera. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères sera au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné va présenter des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition. Acheminer davantage d'aide à Gaza, justement, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes des territoires. Tzal a diffusé les images des travaux en cours.
Merci Eva pour ce rappel des titres et on parle musique tout de suite sur Radio-J.
Radio-J, le 6-9, Nicolas Raffal.
Sarit Haddad, Atta Totar, sur Radio-J. Elle est née le 20 septembre 78. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'elle n'a jamais, jamais connu Claude François. Voilà. Sarit Haddad.
Come on.
Tadad avec sa chanson Ata Totar sur Radio J. Shirim, né en 78, ça veut dire que c'était son dernier 78 tours, peut-être. A tout de suite, on parle histoire. Vladimir Fedorovski.
Nicolas Raffal.
L'histoire de la Russie et de l'URSS, Vladimir Fedorovski au micro d'Eva Soto nous raconte celle de Sergueï Tchogou, le ministre de la Défense.
Et comme chaque dimanche sur Radio J, on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir Vladimir Fedorovski pour l'histoire des grands personnages de la Russie et de l'URSS. Bonjour Vladimir Fedorovski.
Quel plaisir d'être avec vous et aujourd'hui on entre dans le vif du sujet. Parce qu'on va parler de ministre de la Défense.
Et je rappelle effectivement votre dernier livre aussi, Napoléon face à la Russie, paru aux éditions Ballant. Vous venez de le dire hein, aujourd'hui au programme, le ministre russe de la Défense, Sergueï Tchogou. Alors que le pays, la Russie, est en guerre, comment expliquer qu'il s'exprime si peu ?
C'est un personnage assez bizarre pour moi. Vous savez que c'était un ministre, il y avait deux ministres les plus populaires, inamovibles, il faut dire, depuis que Poutine est au pouvoir. Il y avait notre ami Lavrov, dont on a parlé la semaine dernière, mais aussi il y a Shoigu, qui est devenu ministre particulier. Ministre, vous savez, le ministre de la guerre n'a jamais servi dans l'armée. C'est quelqu'un qui est plutôt un homme politique, qui est supervisé, qui supervise l'establishment militaire, mais depuis le conflit ukrainien, évidemment, les militaires, ils ont pris vraiment l'importance tout à fait importante, pas nécessairement Shoigu. Pourquoi Shoigu s'exprime si peu? Tout d'abord parce qu'il laisse le commandant en chef, et c'est une astuce politique, il laisse s'exprimer surtout son commandant en chef. Dans la réalité, c'est surtout Poutine qui parle. C'est Poutine qui détermine les choses, Shoigu est plutôt exécutant, fidèle, souvent affable, mais il était choisi parce que Poutine, il n'a rien à craindre de Shoigu. Il n'a pas de prétention politique, il lui est resté fidèle, et surtout dans l'establishment militaire, il a une autorité plutôt relative. Deuxième aspect. Et ça, c'est une chose. Vous savez, Shoigu consciemment fait antithèse de président Zelensky, qui parle, comme vous le savez bien, beaucoup, qui s'exprime devant tous les parlements du monde. Et les Ukrainiens, ils ont l'habitude d'utiliser beaucoup la presse. Shoigu, il a préféré vraiment un profil bas. Il donne des informations parfois précis, parfois moins précis, mais il attend vraiment que ça soit reconnu par tout le monde. Regardez comment il a réagi aux déclarations à l'enfilé quand l'Occident a prédit que les Ukrainiens vont gagner la guerre. Il y a une année, il y a l'offensive qui sera réussie, etc. Shoigu ne disait rien. Il disait les faits vont contredire parce que ça ne se passera pas comme ça. Et il attend les faits qui tombent. Quand les faits sont reconnus, et après, il s'exprime. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le plan militaire, c'est pas lui qui gère la guerre. Celui qui gère la guerre, c'était son chef d'état-major. Il s'appelle Gerasimov, qui est un homme assez pointu, il faut dire. Et Gerasimov, c'est le constructeur, vraiment, de toute la stratégie là-bas. Parfois, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui... Il y a tout un débat, comment gérer ça, par exemple.
Pointu, vous dites, mais on se pose la question hein, aussi sur la force armée russe, quand on voit ce qui s'est passé avec la milice Wagner.
Non, milice Wagner, c'était un épisode qui était là-bas. Vous êtes dans le narratif que l'Occident a développé depuis longtemps.
C'est une question qui se pose.
Non, je comprends votre question, mais je veux vous dire, le narratif est bel et bien existé. C'est un narratif assez dangereux, et Napoléon, dont j'ai parlé dans mon livre, nous a prévenu de ça. L'Occident, pendant 2 ans, il a beaucoup pris sur le plan militaire ce désir pour la réalité. Le message était très simple, que les Russes sont nuls, qu'ils ne s'arrivent pas.
Ça, là, on en a déjà parlé.
Non, mais aussi... je vous signale, c'était passé comme ça. Et je dois vous dire que les faits ont basculé très vite.
Bien sûr, concernant Sergueï Choïgou, par rapport à ce qui peut se passer dans des milices comme Wagner, etc., puisqu'il est ministre de la guerre, pourquoi est-ce que ça arrive malgré le fait que Vladimir Poutine dirige tout et malgré le fait que Sergueï Choïgou soit un fin stratège, comme vous l'avez dit?
Non, il n'est pas fin stratège, c'est quelqu'un qui est politiquement subtil. Mais je dois vous dire, la décision a été prise par Poutine à un moment difficile du début, parce que vous savez, il ne faut pas oublier que Poutine s'est trompé au début. Et au début, il a utilisé toutes les forces qui ont été dans sa présence, notamment ces forces de la milice privée, Wagner.
Ça veut dire que Sergueï Choïgou, il ne sert à rien?
Non, pas du tout. Ça, c'est pas vrai. Au contraire.
Puisque vous parlez toujours de Poutine, c'est pour ça que je pose la question.
Non. Choïgou sert donc paravent d'un trait d'union entre l'armée et Poutine, mais trait d'union avec laquelle il peut être en confiance totale. Il n'a rien à craindre de la part de Choïgou. C'est tout le contraire. Vous avez cité Prigojine, qui est maintenant disparu. C'était un personnage exubérant, tout à fait charismatique, avec l'influence sur ses forces directes, etc. Il a beaucoup de choses à craindre là-bas. Il y avait un autre dirigeant qui était aussi un peu hostile à Choïgou, aujourd'hui limogé. Il y avait un commandant en chef local qui s'appelait Souvorokine, qui a construit d'ailleurs une ligne de défense tout à fait efficace qui porte son nom. Il était limogé. Tous ces gens-là, ils ont été limogés et parfois ils ont disparu dans les conditions tragiques dans le cas de Prigojine. Pourquoi? Parce que Poutine, il a compris qu'ils peuvent jouer leur propre jeu. Choïgou est fidèle des fidèles.
Il est décrit comme le spin doctor de Vladimir Poutine, souvent, c'est le cas?
Il ne faut pas, vous comprenez, c'est un personnage utilisé par Poutine qui a confirmé sa fidélité et c'est tout. Il sert à lui comme un instrument politique de l'influence de l'armée. Je dois vous dire quand même.
Il est décrit aussi comme un conseiller en communication pour Vladimir Poutine, notamment sur son image, très...
Non, pas du tout. Poutine, il ne prend pas des conseillers depuis qu'il a brûlé ses ailes avec l'équipe américaine qui lui a conseillé de montrer ses muscles. Après, il était copié, comme vous le savez bien, par d'autres présidents ailleurs avec ses muscles, etc. Il ne prend plus d'équipe de communication. Poutine, il gère la communication lui-même. C'est un grand artiste. Et en ce qui concerne Choïgou, il aime bien de gérer ça. Et finalement, pendant un temps, il était tout à fait populaire. Il a réussi sa communication. Maintenant, c'est un autre cas, parce que c'est un autre cas de figure. L'armée joue un rôle. Il y a l'armée qui joue un rôle beaucoup plus important qu'avant. On va voir comment c'est l'évolution de la situation militaire, mais tout dépend de l'évolution de la situation militaire. Maintenant, les Russes progressent. Ils pensent que les Russes, ils vont prendre... ils vont progresser et dans ce contexte là l'armée il peut jouer un rôle très important sur le plan politique. D'où vient l'importance de Choïgou? Parce que Choïgou, il calme les choses dans l'armée. Il supervise en quelque sorte les forces armées qui peuvent jouer leur propre jeu, comme autrefois, après la guerre, il y avait des personnages comme Zhdanov au temps de Staline qui ont supervisé l'armée après la victoire des Russes contre les nazis.
Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier livre, Napoléon face à la Russie, est paru aux éditions Ballant et on vous retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire à propos des grands personnages de l'histoire de la Russie et de l'URSS. L'actualité donc de ces personnages actuels qui jouent un rôle dans le conflit. On se retrouve donc la semaine prochaine.
On se retrouve dans quelques courts instants là sur Radio J avec la suite des programmes. On est ensemble jusqu'à 8h45 comme tous les dimanches. On va retrouver, bien sûr, après le journal de 6h30, eh bien, il y aura le Dvartora du dimanche avec Mevorar Zerbib. Et puis, le docteur Serge Raphaël se préoccupera de votre santé avec l'intérêt croissant de la psychonutrition. Restez bien branchés avec nous. Voilà, on se retrouve dans quelques courts instants, dans 30 secondes.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Yvan Attal.
Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+. Et sur notre appli, Radio J.
Radio J. Radio J, le 6-9.
Nicolas Raphaël. Radio J.
Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, il est 6h30, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur Radio J, tout de suite avec Eva Soto, c'est le journal de 6h30. Bonjour Eva.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
À la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui publie une nouvelle vidéo d'otage.
Un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Dans ce film scénarisé par le Hamas, les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. Sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza, 95 seraient encore vivants, selon la 12e chaîne israélienne. Une réponse sur un accord à propos de la libération des captifs pourra intervenir dans les 48 heures. Mais un responsable israélien a affirmé que Jérusalem avait refusé le retrait militaire de Gaza et les autres exigences présentées par le Hamas.
En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections.
Manifestation hier soir à Césarée, près du domicile du Premier ministre israélien. Les protestataires ont repris en cœur leur slogan à propos des otages destinés à Binyamin Netanyahou. Que font-ils là-bas? Ils les abandonnent à Gaza. Appel similaire à Tel Aviv, avec là des milliers de personnes, et aussi dans le nord, à Pardes Hana Karkour, près de Hadera. Plusieurs dizaines de manifestants se sont retrouvés sur l'autoroute 4 en brandissant des pancartes pour appeler à des élections anticipées. Se sont également rassemblés donc sous les mêmes mots d'ordre à Tel Aviv, avec également des familles d'otages.
Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël.
Le ministre français des Affaires étrangères sera au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné présentera des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah, qui est soutenu par l'Iran. La proposition de la France a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais elle n'a pas progressé. Il faut dire que le Hezbollah ne veut pas discuter tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza. Israël souhaite de son côté pouvoir garantir le retour en sécurité chez eux des 80 000 Israéliens déplacés du nord à cause des attaques quotidiennes du groupe terroriste mandataire de l'Iran.
Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition.
La coalition d'associations responsables de cette flottille y voit le résultat de pression. Selon son communiqué, la Guinée-Bissau est complice de la famine délibérée imposée par Israël, du siège illégal et du génocide des Palestiniens à Gaza, selon donc les termes employés. En 2010, une précédente flottille de ce type avait avec des islamistes à bord sur l'un des navires, le Mavi Marmara, a été au centre de la détérioration des relations entre la Turquie et Israël.
Acheminer davantage d'aide à Gaza, justement, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire.
Un projet porté par Jérusalem et Washington, Tzahal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. Le but, c'est de permettre à plus de navires d'amarrer pour acheminer davantage d'aide par voie maritime à Gaza. Une brigade de réservistes de Tsahal est déployée sur place pour sécuriser le site.
En France, après la fin du blocage de Sciences Po, le Premier ministre affiche sa fermeté.
Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal, pour qui cette fameuse minorité cherche à imposer ses règles. On écoute le Premier ministre Gabriel Attal.
Nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et sur le respect des valeurs de la République. Et la vigilance sera totale dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour que le respect de la loi, des valeurs de la République soit au cœur de la mission de l'administrateur provisoire qui a été nommé, mais aussi évidemment de la future direction qui sera nommée à l'issue du processus de sélection.
Des étudiants soutenus par la France insoumise ont organisé des blocus ces derniers jours et dernières semaines pour réclamer la fin des partenariats de l'école avec des entreprises et des établissements israéliens.
Merci Eva pour ce journal de 6h30. À tout de suite pour Dvar Torah. Dvar Torah, le Rav Mevorar Zerbib est avec nous sur Radio J en ce dimanche matin. Bonjour Rav.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et moi, Adim et Simcha, en ce dernier jour des jours de Chol HaMoed, des jours de demi-fête, aujourd'hui dans la Torah, on va faire référence à la deuxième fête de Pessah, Pessah Sheni, pour celui qui était impur et qui ne n'a pas pu amener l'agneau pascal à la fête de Pessah, il avait la possibilité, un mois plus tard, d'amener l'agneau pascal, c'est ce qu'on appelle Pessah Sheni. C'est le thème de la paracha qu'on lira ce matin. Mais on va se préparer à la fin de Pessah, Shvi Shel Pessah, le septième jour de Pessah, qui n'est pas Regel Bifnei Atzmo, qui n'est pas une fête à part. C'est pour ça que c'est un jour de fête, Shomé, on fait les prières des jours de fête, mais chose tout à fait exceptionnel, dans le Kiddush, il n'y a pas la bénédiction de Shehriyanu qui nous a permis d'arriver à ce moment-là, qui marque une nouvelle fête. Tous les Kiddush, toutes les fêtes, que ça soit les premiers jours de Pessah, que ce soit les premiers jours de Sukkot, derniers jours de Sukkot, de Shavuot, de Rosh Hashanah, à chaque fois qu'on a un Kiddush de fête, on a toujours la bénédiction de Shehriyanu. L'unique fois où on a un Kiddush de fête et il n'y a pas la bénédiction de Shehriyanu, c'est ce soir, le soir du septième jour de Pessah, qui est le prolongement, la continuité de la fête de Pessah. Alors, il n'est pas marqué dans la Torah pourquoi ce jour est un jour chômé, pourquoi c'est un jour de fête. D'un autre côté, quand on nous parle du passage de la mer Rouge, il n'y a pas de date. Quand les enfants d'Israël ont passé la mer Rouge, c'est après la sortie d'Égypte. Combien de temps après? Le texte ne le précise pas. Aussi, on n'a pas de date du passage à la mer Rouge, on n'a pas la raison du septième jour, et les sages vont faire le lien entre les deux, et vont dire le septième jour, et ben c'est le jour où les enfants d'Israël ont passé la mer Rouge. Et c'est pour ça que c'est un jour de émouna, de foi, de crainte de Dieu, comme est marqué Vayir ou et Hashem, Vayamin ou Hashem ou Moshe Abdo, ils ont craint Dieu, et ils ont eu foi en Hachem et Moshe son serviteur. C'est cette mention de Moshe serviteur de Dieu qui introduit le passage de la mer Rouge le seul verset dans toute la Haggadah qui mentionne le nom de Moshe. Alors c'est un programme sur lequel on pourra revenir et réfléchir, mais de remarquer que comme pour la fête de Shavuot n'est pas marquée dans la Torah. Pourquoi? On l'a faite dans la Torah, c'est pas marqué. Et d'un autre côté, quand on parle du don de la Torah, on dit c'était au troisième mois, oui, c'était au troisième jour, mais qu'on compte à partir de quand? Eh bien, c'est pas clair, c'est pas précis, et ce sont les sages qui vont nous préciser que le fameux troisième jour, eh bien, c'était en fait le 6 ou le 7 Sivan, il y a des discussions entre Rabbi aussi et Chachamim dans le Talmud. En tout cas, c'est ce qui marque la fête de Shavuot. Pour la fête de Shavuot, on a le jour de fête, on a un événement historique, mais pas de lien dans la Torah entre les deux. Eh bien, pour le septième jour de Pessah, on a exactement la même chose, un événement historique majeur, le passage à la mer Rouge, un jour chômé, sans nous dire pourquoi c'est un jour chômé. Et on peut dire que, au moment du passage de la mer rouge, Rata Shifra Layam, Ashlora Yereskel Benmouzi, la plus sainte servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Autrement dit, il y a un dévoilement qui s'est déroulé au moment du passage de la mer rouge, un dévoilement à l'instar de du matin de Torah, du don de la Torah. Donc il y a une similitude quelque part entre le septième jour de Pessah et la fête de Shavuot. Aussi, si on veut faire un parallèle avec la fête de Sukkot, où on a aussi un jour de fête au début et des jours de fête à la fin, le jour de fête de la fin de la fête de Sukkot est une nouvelle fête. C'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret qui est un peu le parallèle de la fête de Shavuot, qui a été collée à la fête de Sukkot, parce que c'est une période où commencent les pluies, et on n'allait pas faire aller venir les pèlerins avec 50 jours de différence entre la fête de Sukkot et Shmini Atzeret. Alors que pour la fête de Pessah, le temps est clément, on peut plus facilement pèleriner. C'est pour ça que la fête de Shavuot est à distance de 50 jours depuis le premier jour de Pessah. C'est le compte du Homer. Mais pour marquer la fin de la fête de Pessah, il y a un jour chômé qui a des ressemblances, on va dire, avec Shavuot, mais qui n'est pas une fête à part. C'est tout un enseignement. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une émission spéciale pour le septième jour de Pessah à 15h de tout à l'heure. Pessah Kasher et Sameach, Moedim Simcha.
Merci Rav Zerbib. Il est 6h40 sur Radio J. On parle de votre santé avec le docteur Serge Raphaël.
Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raphaël. Radio J.
Bonjour docteur Serge Raphaël.
Bonjour Nicolas.
Alors vous souhaitiez aborder ce matin un sujet dont on parle peu pour le moment mais qui semble pourtant prometteur, la psychonutrition, c'est-à-dire les liens existants entre l'alimentation et une supplémentation choisie et la santé mentale.
En effet Nicolas, l'impact de l'alimentation sur le fonctionnement du cerveau et l'intérêt qu'elle pourrait avoir ou plutôt qu'elle a dans les troubles de l'humeur est de plus en plus évident. Cette démarche reste toutefois pour le moment discrète, voire confidentielle, marquée par le même scepticisme qui avait entouré il y a quelques années les affirmations du docteur David Servan-Schreiber, psychiatre, lorsqu'il évoquait l'efficacité des oméga-3 dans la dépression.
Et pourtant, leur intérêt est à présent documenté.
Oui, en effet, de nombreuses publications récentes confirment le rôle essentiel que joue préventivement l'alimentation de type méditerranéenne et certains compléments nutritionnels, dont bien sûr les oméga-3, mais pas uniquement, nous allons le voir, sur notre bien-être physique et mental, et ce, avec un niveau de preuve élevé.
Alors ça a déjà été prouvé, hein, l'alimentation méditerranéenne.
Oui, toutes les études convergent pour affirmer que cette façon de s'alimenter est optimale pour les capacités de notre cerveau et par conséquent notre santé mentale. D'une façon générale, la consommation quotidienne de fruits et légumes, de grains entiers, de légumineuses, d'huile de colza, la consommation plus occasionnelle de poissons, deux portions par semaine et de viande auxquelles nous sommes globalement très attachés est bénéfique. Mais nous consommons en moyenne plus des 500 grammes hebdomadaires recommandés par le PNNS, dont 350 grammes d'aliments ultra transformés. La consommation de ces produits est tout à fait délétère ici, puisqu'une augmentation de 10% de leur apport augmente de 20% le risque de dépression.
Alors venons-en, Serge, aux oméga-3, ils sont importants.
Oui, plusieurs études confirment leurs effets bénéfiques sur la dépression. Ils réduisent l'inflammation, augmentent la production de sérotonine, améliorent la communication entre les neurones. Les doses recommandées, 1 à 2 grammes par jour d'EPA, doivent toutefois être bien supérieures aux apports moyens recommandés, qui sont de 250 mg d'EPA et de 250 mg de DHA chaque jour. Attention, car de nombreux mélanges de pharmacie, de parapharmacie, contiennent ces acides gras, mais en quantité insuffisante pour prévenir ou aider au traitement des troubles de l'humeur.
Et des vitamines qui joueraient également un rôle indiscutable?
En effet, Nicolas, j'en citerai trois. La vitamine D, que l'on ne s'attend pas à trouver ici. La vitamine B6, qui participe également à la synthèse des neurotransmetteurs de l'humeur. Et la vitamine B9, acide folique, qu'on donne systématiquement en début de grossesse pour le développement du fœtus, mais qui est également intéressante pour le cerveau de l'adulte.
Des oligo-éléments?
Du magnésium, évidemment, mais également le zinc. Des études ont montré des taux bas chez des personnes déprimées et à l'inverse, les effets positifs de sa supplémentation, surtout après 40 ans.
Et on évoque également l'importance du microbiote sur l'humeur.
Oui, oui, vous avez raison, Nicolas. Les probiotiques peuvent aider à rétablir l'équilibre de la flore intestinale et améliorer les symptômes dépressifs, le stress, l'anxiété, ce qu'on avait initialement observé sur des souris. Des études sont en cours pour choisir là où les souches les plus efficaces.
Et les protéines, alors, est-ce qu'elles sont également importantes?
Oui, bien sûr, car elles renferment les précurseurs des neurotransmetteurs dont nous avons parlé plus haut. Une étude française récente recommande ainsi 45% de protéines animales, pas seulement la viande, mais aussi les œufs, les laitages, et 55% de protéines végétales chez les moins de 65 ans, et l'inverse chez les plus de 65 ans et les femmes en état de procréer. On a donc le sentiment au travers des études actuelles qu'une alimentation protéinée est préférable pour les troubles de l'humeur à un régime vegan.
Mais est-ce que le jeûne est bon pour la dépression?
Écoutez, les régimes restrictifs alimentent toujours la discussion. La question du jeûne total est insuffisamment documentée. Le jeûne intermittent, qui avait les faveurs d'une partie du public, provoquerait, d'après les dernières études, une surmortalité cardiovasculaire. Alors, prudence avec ces régimes de mode.
Vous n'avez pas dit un mot des plantes?
J'aurais dû, Nicolas, même si je suis déçu du millepertuis. Le safran aurait des effets bénéfiques sur la dépression et aussi la curcumine, extraite du curcuma, qui suscite un intérêt croissant. Mais sa faible biodisponibilité semble un frein pour le moment.
Un intérêt croissant, c'est déjà de l'alimentation, ça, croissant. Et en conclusion, Serge?
La psychonutrition offre, Nicolas, des perspectives prometteuses. Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine qui, mieux que le grand Marcel Proust, pouvait illustrer l'importance de l'alimentation sur les pensées et l'humeur.
Et c'est bien, vous n'avez pas fait la liaison. Je portais à mes lèvres. Bravo. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas fait le S qui n'existe pas. Bravo, docteur Serge Raphaël.
Radio J. Le 6-9.
Nicolas Raphaël.
6h45. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui publie une nouvelle vidéo d'otages. Un film où apparaissent Kiss Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans, selon la 12e chaîne de télévision israélienne. Une réponse sur un accord à propos de la libération des otages pourra intervenir dans les 48 heures. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections. Manifestation hier soir à Tel Aviv, mais également à Césarée, près du domicile du Premier ministre israélien. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères sera au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné va présenter des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition en France. Après la fin du blocage de Sciences Po, Gabriel Attal, le Premier ministre, affiche sa fermeté.
Merci pour ce rappel des titres, Eva. Et à tout de suite, aux mains du Hamas, qui sont-ils?
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raphaël.
Raïm Perry est l'otage dont nous parle dans sa capsule Milena Kartofsky-Ayash.
Raïm Perry, 79 ans, est né en Palestine mandataire et habite depuis 61 ans le kibboutz Nir Oz où il est fermier. Il est issu d'une famille juive polonaise sioniste et progressiste, dont une grande partie restée en Pologne a péri durant la Shoah. Raïm, marié à Osnat, est père de 5 enfants et grand-père de 13 petits-enfants. Il s'installe au kibboutz Nir Oz après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires comme membre du groupe Nahal au sein du mouvement de jeunesse Hashomer Hatzair. Parachutiste, il sert dans l'armée jusqu'à l'âge de 50 ans. Après avoir pris sa retraite militaire, Raïm, qui est également artiste, écrivain, sculpteur et cinéaste, crée et gère la galerie d'art de White House, qui est construite dans les champs du kibboutz Nir Oz. La galerie expose les œuvres d'un large éventail d'artistes venant de tout le pays. Ce lieu artistique singulier est un projet précieux pour Raïm, fondé sur son grand amour pour l'art et les artistes. Son fils, Lior, décrit un père artiste audacieux par ses choix de pensée et ses actions. Après avoir pris part à toutes les grandes guerres d'Israël, Raïm est devenu un militant actif pour la paix, participant et organisant régulièrement des activités et projets visant à promouvoir la coexistence entre Israéliens et Palestiniens. J'ai vu la guerre et je ne la reverrai plus. Il ne devrait jamais en être autrement, disait Chaim avant le 7 octobre. Chaim est membre de l'ONG Road to Recovery, qui se charge de conduire bénévolement des patients palestiniens, principalement des enfants, depuis Gaza vers les hôpitaux israéliens, afin qu'ils y reçoivent des soins médicaux. Le 7 octobre, Chaim est enlevé depuis sa maison de Nir Oz et kidnappé à Gaza, où il est détenu otage jusqu'à aujourd'hui. Sa femme Osnat survit au massacre. Elle raconte. Au matin du 7 octobre, Chaim et moi nous sommes précipités dans notre pièce sécurisée. Les messages que nous avons reçus de nos voisins sur le groupe WhatsApp du kibbutz nous ont rapidement fait comprendre qu'il y avait une attaque d'une ampleur que nous n'avions jamais connue auparavant. Les terroristes du Hamas se sont introduits à 3 reprises dans notre maison. La première fois, ils l'ont saccagé et provoqué une coupure d'électricité, nous laissant Chaim et moi dans l'obscurité totale, cachés dans un coin de notre pièce sécurisée, nous promettant que quoi qu'il arrive, nous resterions ensemble. La deuxième fois, l'un des terroristes a découvert et ouvert la porte blindée de la chambre forte et a tenté d'entrer. Mais Chaim a réussi à le repousser et à refermer la porte. La troisième fois, 3 terroristes sont entrés dans la maison et ont traîné Chaim hors de la pièce sécurisée. Les terroristes lui ont dit en anglais qu'ils ne le tueraient pas s'ils ne faisaient pas d'histoire et s'ils les suivaient. Chaim, réalisant que les terroristes ne savaient pas s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce sécurisée, j'étais alors accroupi dans un coin à environ 2 mètres d'eux, a rapidement décidé de sortir avec eux, m'évitant ainsi d'être découverte et prise en otage, ou pire encore. Le téléphone portable de Chaim a été oublié, il est donc impossible de confirmer quand il est arrivé à Gaza. Ce n'est que lundi 23 octobre que notre famille a été informée qu'il était vivant et détenu par le Hamas. Cette information a été transmise par l'ex-otage Yocheved Lifshitz, 85 ans, libéré le 23 octobre et qui a vu Chaim en captivité. Noam, le fils de Chaim, se bat aujourd'hui pour que les organisations humanitaires internationales obtiennent des nouvelles concernant son père et les autres otages retenus par le Hamas dans des conditions abominables. Mi-février, lors de l'opération militaire à l'hôpital Nasser de Gaza, Tsahal découvre des boîtes de médicaments non ouvertes portant les noms d'otages israéliens et donc non distribuées à leurs destinataires comme elles auraient dû l'être. Parmi ces boîtes, certaines portaient le nom de Chaim Peri, atteint d'une pathologie cardiaque pour laquelle il a déjà subi 2 interventions chirurgicales.
Chaim Peri, aux mains du Hamas.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raffal.
6h51, un jour une mitzvah, le rabbin Chaim Nissenbaum est avec nous. Bonjour Rav.
Bonjour à tous. Voilà que nous approchons de la fin des célébrations de Pessah, mais il nous reste encore les 2 jours à venir, des jours de fête au plein sens du terme, et pas n'importe lesquels. Tout d'abord, dès ce soir, nous entrerons dans le 7e jour de Pessah. Le 7e jour, ça nous ramène à un événement considérable. En effet, les Juifs ont donc quitté l'Égypte. Il y a maintenant 1 semaine, nous sommes sortis d'Égypte, libérés contre son gré, mais libérés par le Pharaon. Et nous avons commencé à marcher dans le désert. Nous avons marché dans le désert, au bout d'une semaine, nous sommes arrivés devant la mer la plus proche, la mer d'Éjon, dit le texte de la Torah qu'on assimile en général à la mer Rouge. Eh bien, voilà que nous sommes au bord de la mer, et derrière nous, l'armée égyptienne a entrepris de nous poursuivre et de nous ramener en esclavage. Alors les Juifs ne savent plus quoi faire, ne savent plus que penser. Et Dieu leur dit, au-delà de toutes les opinions, écartons tout cela, avancez. Et les Juifs ont confiance. Ils avancent dans la mer et la mer va s'ouvrir pour les laisser passer et ensuite se refermer sur l'armée égyptienne qui les a poursuivis. Et oui, c'est ce soir dans la nuit, au petit matin, que cela va se passer. C'est un grand moment, une grande idée. La libération se conclut. À partir de maintenant, le miracle est parfait, le miracle est complet. Dieu n'a pas hésité une seule seconde. Nous marchons vers la liberté. Nous sommes libres, nous marchons vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah, et puis ensuite vers la terre d'Israël pour y vivre pour toujours. Très bonne fête à tous.
Merci Raïm.
Le 6-9,
Nicolas Raffal.
La musique musique qui termine la liste de Schindler. Bien sûr, vous avez reconnu. Mais oui, bien sûr, le Yerushalayim Shal Shevar. John Williams, bien sûr, à la musique de ce film de Spielberg, parce qu'on vous parle. Ah oui, magnifique. Oh là là. À chaque fois que j'écoute cette musique, je suis absolument bouleversé. Il est des musiques dont on ne se lasse pas, et celle-ci en fait partie. Oskar Schindler, né un 28 avril, on vous parle de lui ce matin, 1908, l'industriel allemand qui sauve durant la Shoah entre 1100 et 1200 juifs en les faisant travailler dans ses fabriques d'émail et de munitions situées en Pologne et en Bohême-Moravie. Il est honoré du titre de juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem en 1967. Il est enterré au cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem.
Il naît le 28 avril 1908 à Svito en Moravie, à l'époque en Autriche-Hongrie, aujourd'hui en Tchéquie, à côté des Sudètes qui seront annexées par Hitler en 1938. Oskar Schindler naît allemand, catholique. Il devient citoyen de la nouvelle République tchécoslovaque après la Première Guerre mondiale et la dissolution de l'Empire austro-hongrois. Après avoir étudié dans différentes écoles d'ingénieurs et épousé Émilie Perls en 1928, il occupe diverses professions, notamment dans l'entreprise d'équipement agricole de son père. Il ouvre également une auto-école et vend des biens du gouvernement. De plus, il s'engage dans l'armée tchécoslovaque et en 1938, atteint le rang de caporal de réserve. En février 1939, 5 mois après l'annexion des Sudètes par l'Allemagne, il adhère au parti nazi. Homme d'affaires opportuniste et amoureux des belles choses, on n'aurait apparemment pas dit de lui qu'il sauverait des juifs pendant la guerre. Pourtant, Oskar Schindler vient au secours de plus de 1000 d'entre eux, empêchant leur déportation vers Auschwitz-Birkenau.
En octobre 1939, après l'invasion et l'occupation de la Pologne par les Allemands, Schindler s'installe à Cracovie. Le mois suivant, profitant du programme d'arianisation de la région qui vise les entreprises appartenant à des Juifs et à des Polonais, il rachète une usine de produits en émail dont le propriétaire est juif. Il l'a reconverti pour créer une usine d'articles émaillés allemands, Oskar Schindler, qui fut surnommé Emalia. On parle d'émail et sa femme s'appelle Émilie, je vous le rappelle.
Oskar Schindler gère 2 autres usines à Cracovie, mais il emploie des travailleurs forcés venus du ghetto de Cracovie, tout proche seulement à Emalia. À son apogée en 1944, 1700 ouvriers occupent un poste à la fabrique. Lorsque les Allemands liquident le ghetto de Cracovie en mars 1943, ils déplacent sa population vers le camp de travail forcé qui devient le camp de concentration de Krakow-Platsov. Oskar Schindler emploie alors au moins 1000 de ces travailleurs forcés juifs. Ainsi, dès mars 1943 et jusqu'à la transformation d'Emalia en sous-camp l'année suivante, les prisonniers envoyés à Emalia vivaient dans de terribles conditions dans le camp de concentration de Platsov. Au cours de cette période, Oskar Schindler intervient en leur faveur à de multiples reprises, à grand renfort de pots de vin et de diplomatie pour garantir leur bien-être. Il s'agit également de s'assurer, jusqu'à la fin de 1944, que la SS ne les déporte pas. Pour répondre de son statut essentiel à l'effort de guerre, il ajoute une division de fabrication d'armes à Emalia. De plus, lors de la liquidation du ghetto de Cracovie en mars 1943, il leur permet de passer la nuit à l'usine.
Quand en janvier 1944, le camp de Platsov devient officiellement un camp de concentration, Schindler persuade la SS de convertir Emalia en sous-camp. Il permet à 450 juifs d'autres usines à proximité de venir vivre à Emalia. Ceux-ci peuvent ainsi fuir la brutalité systématique et les meurtres arbitraires. Les démarches d'Oskar Schindler ne sont pas sans risque ni sans coût. La protection qu'il accorde aux ouvriers et ses affaires douteuses font réagir la SS et la police qui le suspectent de corruption et d'aide illégitime aux Juifs. Il est arrêté 3 fois, mais aucune poursuite n'est engagée contre lui. En octobre 44, après le transfert des Juifs d'Emalia à Platsov, Schindler demande et obtient l'autorisation de déplacer son usine à Brunlitz, dans le protectorat de Bohême et Moravie, et d'en faire une fabrique dédiée à l'armement. Un assistant rédige plusieurs versions d'une liste nommant jusqu'à 1200 prisonniers juifs. On écoute un petit extrait.
Les enfants, tous les enfants. Horowitz. Combien ?
Ce moment dans le film de Spielberg où Schindler et son assistant tapent à la machine le nom des Juifs à sauver, ces papiers que l'on appelle la liste de Schindler. En respectant les demandes des SS que Brunswick devienne un sous-camp de concentration de Gross-Rosen, Oskar Schindler permet la survie d'environ 800 hommes déportés de Platzhof via Gross-Rosen à Brunswick, ainsi que 3 à 400 femmes juives de Platzhof vers Auschwitz. Bien que classifié comme usine d'armement, Brunswick ne produit qu'un seul wagon de munitions en près de 8 mois de fonctionnement. De fait, Oskar Schindler présente des chiffres de production fictifs pour justifier l'existence du sous-camp comme usine d'armement. Ainsi, plus de 1000 juifs peuvent survivre tout en échappant aux horreurs et à la brutalité de la vie dans les camps. Ils ne quittent Brunswick que le 9 mai 1945, le jour où les troupes soviétiques libèrent le camp.
Après la Seconde Guerre mondiale, Schindler et sa femme Émilie s'établissent en Allemagne, à Regensburg, avant d'émigrer en Argentine en 49. En 57, définitivement séparés mais pas divorcés, ils retournent seuls en Allemagne où ils meurent sans argent, pratiquement inconnus, en octobre 1974. Par la suite, nombre de ceux dont il avait permis la survie militent pour que son corps soit enterré en Israël et en finance le transport. Qui sauve une vie, sauve le monde, Schindler. Juste parmi les nations, 28 avril 1908.